étaient très ternes, se ressemblaient tous. Les événements étaient dans la journée, tous les jours se ressemblaient. Donc il n'y a rien eu de très particulier, à part deux, trois petites anecdotes si vous voulez, mais tout se ressemblait. C'est-à-dire que tous les matins, à peine l'heure de déjeuner arrivait, je pense que c'était à peu près au lever du jour, tous les matins, et ça a duré pendant 22 jours, dans la cour de la prison, on entendait boutir, et aussitôt je savais que je partais à l'interrogatoire. Comme par un fait du hasard, d'ailleurs, c'était toujours à l'heure du petit déjeuner, pas du petit déjeuner parce qu'il n'y avait qu'un verre de café, mais c'était toujours à l'heure du petit du café, et je partais en passant un œil sur les verres qui étaient installés sur la table dans la cour, mais je ne pouvais absolument pas absorber mon verre, il fallait que je me dépêche. Donc, tous les matins, interrogatoire, toujours sur le même thème, brutalité, c'est surtout les premiers jours, après, non, quelques coups par-ci, par-là, mais enfin, pas de grosse brutalité, enfin, on était quand même dans un triste état, c'est-à-dire, moi, je ne le voyais pas, évidemment, on n'en avait pas de glace, on n'avait pas trop se laver. On était vraiment dans un triste état. Et si je regarde par exemple Sébastien, son fer à cheval sur le front s'était infecté, c'était pas très joli à voir. Il y avait Robert Monge, je le voyais très peu parce que Robert Monge et Scholz avaient été transférés de cellule et ils étaient passés dans une cellule à côté. Alors nous restions plus que trois dans une cellule. Il y avait Gilbert, Henri, Villadali et puis moi. Et je vous dis, alors, mais par contre, on avait une heure de promenade tous les jours. Alors il fallait promener les mains dans le dos et on tournait dans la cour de la prison, comme ça on tournait. Il ne fallait surtout pas se parler. Alors c'est là que j'ai aperçu Robert Monge, qui avait déjà, je voulais dire au début, qui avait déjà de très grosses lèvres, mais alors là, c'était quelque chose, on aurait dit, vous savez, le nègre de Banania, là, hein, il avait des lèvres tuméfiées qui étaient énormes, énormes et fendues, il en avait vraiment pris plein la poire. Alors comment j'étais, moi je sais pas, c'est assez vraisemblable que je dois avoir des yeux au beurre noir aussi, mais on ne s'en parlait pas, voyons, on ne disait rien entre nous. On ne parlait pas de ça. Je ne sais même pas de quoi on parlait, d'ailleurs. Je ne sais même pas si on parlait de notre avenir, si on parlait du passé. Je ne sais pas, je n'ai pas souvenance de ça. Et puis, donc, je reviens, tous les matins, il y avait interrogatoire, et les uns après les autres, et ça, jusqu'à midi. À midi, on arrivait à manger un peu, et l'après-midi, il y avait différentes corvées, c'était soir. Aller désherber dans la cour de la caserne, soit aller décrasser les pots à la cuisine, ou encore les voitures, et puis bon, ben c'était tout, on n'avait absolument rien. Alors ce qui nous manquait peut-être le plus, parce que quand il y avait la nourriture, disons pas qu'elle était de qualité, mais qu'elle était abondante, mais elle était au moins égale à celle que nous pouvions avoir à Bordeaux quand nous étions libres. Et bon, vous voyez, il y avait quand même une nourriture, nous étions nourris. Et ça a duré 22 jours. Alors les anecdotes, bon, il y a eu quand ce prisonnier russe nous avait donné une cigarette, on s'était mis les uns derrière les autres, à la promenade de l'après-midi, et alors... à peine étions-nous sortis que je ne me souviens pas qui est-ce que le premier qui a allumé la cigarette alors qu'il commençait à fumer en tournant en rond, et puis on se repassait la cigarette de là-haut, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tirait deux ou trois bouffées dessus et qui la passait au derrière et bien ainsi de suite, puis ça revenait devant et vous voyez jusqu'à la cigarette pour terminer. Alors on était peut-être au troisième tour là, et Scholz passe, parce qu'il y avait on tournait en rond, il y avait les Allemands, qui me regardaient d'une sorte de petit cagibi, là, vous voyez, qui était dans le bâtiment. Et donc, on passait devant, moi, bien sûr, on tourne. Et quand il est arrivé devant, il avait sa cigarette aux lèvres, fureur de l'Allemand. Mais une furie qui est sortie de là-dedans. Il est tombé un raccourci sur le pauvre Roger. Il lui a mis une trempe monstrueuse, la cigarette, elle était piétinée, il hurlait, il en bavait. Affreux, vous voyez, c'est pas pensable, c'est risible quand on voit des bêtes, c'était une bête, c'était pas autre chose, quoi. Pour une simple cigarette, même si nous étions détenus, et même si nous étions détenus politiques, l'histoire d'avoir une cigarette, ça ne s'apprêtait quand même pas à avoir une telle fureur. Je ne sais pas tout ce qu'il pouvait hurler dans sa langue, j'en sais rien. On voit les anecdotes, rien de très très important. Et puis, ça lui finit, ça lui a pris 22 jours. Et le 22e jour, nous avions été interrogés pour devenir. Puis ça s'estompait, on sentait qu'ils étaient de plus en plus mous à nous interroger. Et toujours, on maintenait cette histoire d'usine électrique. Et puis voilà que le 23e jour, à midi, on ouvre les portes de la cellule et ils appellent les noms. Boutier, et Sébastien, et Scholz, et Villadari, pas Villadari, pas cet accent-là, non, c'est un autre accent. Hein. Et puis, sortez, et en même temps, on voit des gens civils qui étaient là, chapeau, veste, il avait même avec imperméable, mais il ne pleuvait pas, remarquez, ils avaient quand même des imperméables. Et donc, cette place était des Français. Ils nous disent, allez, dépêchez-vous, on vous embarque, nous sommes la police française. On vous emmène à la préfecture. Alors, tout est bailli, on remarque, on n'avait rien à ramasser, hein. On avait vraiment les mains dans les poches et c'est tout. Alors, on est sortis comme des bouilleux. Et puis, on est sorti de la cour de la caserne. La cour de la caserne, on s'était fini. Et devant, il y avait une voiture noire qui était là. On s'est empilé là-dedans, dans cette voiture. Je crois que c'est une Celta 4. Oui, c'est quand même des grosses voitures. Hein. Et la voiture, elle est partie plein pot. Nous sommes arrivés à la préfecture. Vous dire qu'on avait mangé, négatif. Hein. Là, ça a été fait juste au moment où on partait. Il y avait toujours des coïncidences comme ça, d'ailleurs. Donc, on arrive à la préfecture et puis on nous laisse dans un bureau. Et il y avait des gens qui s'affairaient là, tout autour. Mais personne ne nous a adressé la parole. Et on est resté comme ça, peut-être 2 heures. C'est difficile d'évaluer le temps. On était entre nous, on n'osait même pas trop causer, on ne sait pas ce qu'on allait faire là. De temps à autre, il y avait quelqu'un qui rentrait. Il y a une chose que je me rappelle, c'est toujours dans l'histoire des anecdotes. Il y avait une table dans le fond et il y avait des colis. Ces colis, c'était des colis de la Croix-Rouge. Alors à qui étaient-ils destinés? Je l'ignore. Je suppose qu'ils étaient destinés à des prisonniers ou des prisonniers en France ou bien des prisonniers en Allemagne, j'en sais rien. Mais il y avait toujours deux gars, c'était toujours les deux mêmes, qui arrivaient, qui ouvraient les colis les uns après les autres, et qui piquaient le chocolat qui était dedans, et qui mangeaient le chocolat devant nous, et ça s'occupait de nous, absolument pas ça s'occupait de nous. Il y avait du chocolat qui était dedans, et ils piquaient ce chocolat, ils le mangeaient, et ils partaient, ils revenaient, après quand le chocolat était fini, ils ouvraient notre colis, ainsi de suite, et puis ils tapaient dedans. Bon, enfin, à un certain moment, quand même, il y a un gars qui est arrivé, goguenard, là, chapeau mou, il avait une sorte de gabardine noire, petit rond, oui, bon enfant. Il dit, bon, alors messieurs, ben maintenant vous êtes dans de bonnes mains, enfin on a réussi à vous sortir quand même des mains des Allemands. Alors, on était perplexe, hein. Alors il poursuit, quand même, ils ont dû vous foutre une sacrée raclée, hein, on voit dans l'état où vous êtes, bon, enfin, ça vous a bien sorti quand même, parce qu'on a réussi à vous faire sortir, alors maintenant, on fait les papiers nécessaires, on fait les documents nécessaires, et puis on va vous renvoyer chez vous. Hein. On a tous les renseignements, là. Vous repartez tous sur Bordeaux au train de ce soir. Puis entre nous, pourquoi vous vouliez partir en Espagne? C'est pas ridicule quand même. Qu'est-ce que vous auriez foutu en Espagne? Alors, c'est là qu'on se fait piéger, mais piéger bêtement. Eh bien, qui l'a dit le premier? Mais tout le monde avait envie de le dire. On dit, on voulait partir en Espagne pour rejoindre De Gaulle. Eh ben oui, ben alors ça va, entre Français, on va quand même pas se bouffer le nez. Hein. Alors bon, ben on va vous faire pour vos mal au papier, et puis ce soir, allez, vous irez manger la soupe chez vous. Enfin, prendre le train pour chez vous. Puis voilà, on en est resté là. Ça a attendu un petit moment. Et puis, on est toujours dans une espèce de bureau de la préfecture, là, et pratiquement seul. Et puis, il y a une secrétaire qui est rentrée avec des grands papiers. C'était énorme comme papier, c'était très très long. Je ne sais pas quel format ça pouvait être, mais si c'était du 21, c'était au moins du 32 en long. C'était vraiment des papiers très longs. Elle met ça sur sa machine, je dis en 3 ou 4 exemplaires. Et puis elle commence à taper. Puis d'un seul coup, elle demande des renseignements, prénom du père, prénom de la mère, à qui c'est adressé, je ne me souviens pas. Ça n'a pas tellement d'importance. Et alors en s'approchant, pour lui dire partir son épaule, et alors elle tapait, elle était prise en zone, interdite par l'autorité allemande, enfin les termes exacts, je ne me souviens plus. Ce que je me souviens, c'est la fin. Parce que la fin, elle était caractéristique, et ça je m'en souviendrai toute ma vie. C'était mentionné, attendez, laissez-moi retrouver les termes exacts. Le détenu sera incarcéré au centre de séjour surveillé de Noé, Haute-Garonne. Voilà comment que ça se concluait. Voilà la promesse qui nous avait été faite, que nous partions et que nous avions, et voilà, à nous estorquer une vérité, eh bien, au lieu de nous envoyer chez nous, nous partions au centre de séjour surveillé de Noé. On ne savait absolument pas ce que c'était que le centre de séjour surveillé. Et d'ailleurs, on n'a jamais entendu parler, parce que personne ne savait ce que c'était. Et alors, on est resté encore un moment. Et puis, sur le coup de 4 heures de l'après-midi, environ 4 heures de l'après-midi, on est vu, il y a des gendarmes qui sont arrivés, qui nous ont remis les menottes, de nouveau. Et puis, on nous a embarqués. Alors, aux gendarmes, on a dû poser quand même la question, qu'est-ce que c'est le centre de séjour surveillé? Il a dit, bah, c'est un camp, un immense camp, tenu par la milice, et puis c'est un camp d'internement, c'est un camp de travail, qu'est-ce que c'est? Bah, je ne sais pas trop, non, on ne sait pas trop, vous êtes interné dans ce camp, et puis c'est tout. Il n'en savait pas plus. Alors, de Tarbes, on nous a amenés à la gare, nous avons pris le train. Et en fin de soirée, nous sommes arrivés à Longage, qui est un petit village avant d'arriver à Toulouse. Alors ça c'est une région que nous ne connaissions pas du tout, absolument personne. Et de Longage, nous sommes descendus avec les gendarmes. Et il y avait je me souviens qu'il y avait une espèce de route poussiéreuse là, et c'était peut-être à 6 km de là. On a vu une espèce de camp qui se dressait en bout de ce chemin. C'était immense, des baraques en planches, des fils de fer barbelés tout autour, des camps, baraques, vous voyez, des baraques en bois qui étaient là. Et c'était immense, en plein milieu de la nature, il n'y avait rien autour, rien du tout. Alors nous sommes rentrés, ça a été très vite fait, on nous a dit, je crois que c'était baraque 42. Baraque 42, les gendarmes nous ont laissés là, et les miliciens nous ont emmenés, et nous ont fait connaissance avec le centre de séjour surveillé, qui en définitive c'est un camp de concentration, mais en France, bien sûr, avec pas toutes les rigueurs qu'il pouvait y avoir en Allemagne, il n'y avait pas de faux crématoire, il n'y avait pas de... Il n'y avait même pas de travail obligatoire, puisque nous n'avions rien à faire. Et on nous a emmenés à la baraque 42. Baraque 42, alors il faut vous situer exactement. C'était une baraque en planche. Il n'y avait aucune ouverture. Où elles étaient condamnées, tout au moins, toutes les ouvertures étaient condamnées. Et il y avait juste une porte latérale dans le milieu du bâtiment, tout au moins pour la baraque 42. Et alors, elle était parallèle avec la baraque 41, qui elle aussi avait une porte latérale qui était juste en face. Et alors, entre les deux baraques, il y avait des fils de fer, et puis des fils de fer barbelés, et puis des WC entre les deux. Et alors, il fallait pénétrer par la baraque 41, qui avait, elle, une entrée en bout, qui était tenue par des miliciens, il y avait des miliciens en armes qui étaient là. On rentrait par la baraque 41, quand on était au milieu, on tournait à droite, on traversait la cour et on rentrait dans la baraque 42. Alors là, à l'usage, on a appris que la baraque 42, c'était les détenus politiques, et la baraque 41, c'était les droits communs. Alors dans les droits communs, ça c'est une chose qu'on a appris, quand il y avait marché noir, en principe presque tout du marché noir, vous voyez, des cocktails plus ou moins trafiqués. Quant à là, on ne se fréquentait pas. Alors ça, s'il y avait quelque chose, on ne se fréquentait absolument pas. On avait, nous, un certain dé... Mais ce n'est pas nous qui étions neufs. Si vous voulez, nous étions arrivés, mais quand on nous a dit ce sont des droits communs, bon, on avait, je ne sais pas, dire fierté, le mot est gros, si peut-être, c'est ça, mais... Dans l'ensemble de la baraque 42, il n'y avait aucun rapport avec la 41. Rien. Par contre, eux avaient beaucoup de privilèges. Ils avaient droit aux colis. Ils recevaient des colis. Ils avaient droit aux visites. Ils avaient droit aux courriers. Ils avaient droit aux cigarettes, ainsi de suite. Enfin, cigarettes, bien sûr, ceux qui pouvaient en avoir, qui en recevaient. Et nous n'avions droit à strictement rien. Rien, sinon la tasse de café noir qu'on nous apportait, enfin, le café noir, la tasse de tisane qu'on nous apportait le matin, alors ça, c'était justement un droit commun qui nous apportait tous les matins une gamelle, une immense gamelle pour toute la ville, et on avait droit à peu près un quart. Il y avait que quelques quarts, il fallait donc attendre, on buvait les uns derrière les autres avec le même quart. Alors on était dans des conditions vraiment lamentables. Juste un lit, pas de couverture. Hein. Juste un lit, mais enfin c'était en été. Juste un lit avec une paillasse dessus, qui était mangée par les mites, mangée par les punaises, et ainsi de suite. Et puis, dans le fond de la baraque, il y avait des lavabos, où on avait environ un quart d'heure d'eau le matin, en tout et pour tout. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure, il fallait que tous les gars de la baraque. Alors, combien que nous étions là-dedans, je crois qu'on était 52. 52 droits communs. 52 politiques. Ils étaient beaucoup plus nombreux d'ailleurs dans les droits communs. Ils étaient vraisemblablement une centaine. Et puis, on restait là. Jusqu'à midi. Et alors, à midi, on nous faisait sortir, les miliciens venaient, nous faisaient sortir, et alors on se mettait en rang. On se mettait en rang par quatre, mais là, avec les droits communs, c'est-à-dire que les droits communs se mettaient devant et nous nous mettions derrière, puisqu'ils évacuaient la baraque les premiers, et nous arrivions derrière, on se mettait derrière, et alors on devait partir au pas jusqu'au réfectoire. Alors là, il y avait toujours une quinzaine de miliciens qui nous regardaient marcher au pas. Et si par malheur, il y en avait un qui ne marchait pas au pas, celui-là sortait les rangs immédiatement et hop, était renvoyé à sa baraque et puis se passait droit pas. Alors vous voyez, on apprenait déjà très tôt à avoir une... C'est peut-être ce qui m'a servi d'ailleurs dans l'armée. Après, j'avais très bien marché au pas. Bon, alors nous arrivions là-bas, au réfectoire, et alors Il y avait des grandes tables, on était une vingtaine à peu près par table, mais alors là, il y avait à peu près une vingtaine. Et alors, tous les Français étaient ensemble, parce qu'il faut que je vous dise. En fait, d'abord, continuons par l'histoire de la victoire. Donc, les Français étaient ensemble, on n'avait pas de... Alors là, il y avait quand même des fenêtres. Il y avait des fenêtres, et on pouvait voir le camp, le camp de chez nous, on pouvait rien voir sinon de la cour. De la cour, on pouvait voir qu'il y avait des multitudes de baraques, mais sans savoir exactement. Et alors, c'était donc en été, ça, et c'était l'époque des courgettes. Eh bien, la nourriture midi et soir, c'était un quart ou une demi-courgette cuite à l'eau, mais entière alors, hein, pépins, peau et tout, vous voyez, dans une qui baignait dans du jus, là, et puis on avait ça. Voilà, alors ça dépendait de la grosseur de la courgette. Si elle était grosse, on avait un quart, si elle était pas trop grosse, on avait une demi. Voilà, on avait ça, et un morceau de pain qu'on touchait le soir, qui était environ de 150 grammes, quoi, environ 150 grammes de pain qu'on touchait le soir, et ça c'était valable pour le soir et tout le lendemain. À l'exclusion de ça, terminé. Sauf des exceptions, alors ça c'est l'exception, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc pour revenir, voilà, à peu près la vie quotidienne du camp, on rentrait, et puis nous n'avions plus rien à faire. On n'avait rien à faire, on était enfermés, enfin enfermés, on pouvait quand même sortir dans cette espèce de petite cour entre les deux baraques, et là on avait vu sur le camp. Alors on a appris quand même, parce qu'on se fréquentait quand même, en troupe politique, on a appris que c'était un camp où il y avait, d'abord, il était prévu à l'origine, ce camp, il avait été prévu pour les réfugiés espagnols après la guerre de 1936. Donc c'était un camp où ils étaient hébergés, vous voyez. Mais ensuite c'est devenu, quand il y a eu la guerre franco-allemande, c'est devenu un camp d'internement où il fallait bien garder quand même ces Espagnols qui étaient internés, et qui étaient évidemment des communistes, donc imaginez-vous, il fallait les garder. Et puis alors il y avait aussi une partie du camp qui était le camp juif, et c'était le camp le plus près de nous. Ce qui fait que de la cour, on pouvait voir les baraques des juifs de l'autre côté, qui étaient séparés quand même, le camp juif étaient séparés par des barbelés, mais on pouvait voir quand même apercevoir le camp juif de l'autre côté. On ne voyait personne, que les miliciens, il n'y avait même pas à leur adresser la parole, ils ne nous adressaient pas la parole non plus, ils ne parlaient pas. Bon, alors maintenant, dans les détenus qui étaient là, l'âge moyen était aux environs de 35-40 ans. Alors, c'était tous des gars, il y avait tout comme tentative de passage de frontière, en principe c'était tous des gars qui avaient tenté, ou qui avaient été pris même dans les différents maquis, qui avaient tenté de rejoindre des maquis, ou, comme c'était le cas de notre voisin le plus proche, là, un brave paysan du Lot, qui avait ravitaillé des maquis. Alors il y en avait un peu partout. Et alors, la grosse frousse, c'est que bon, on n'était pas bien, on crevait de faim. Alors ça c'était, on crevait de faim, et puis on était mangé par la vermine, et on n'avait pratiquement pas d'eau pour se laver, puisque je vous dis un quart d'heure, c'était. Bon, mais alors la grosse frousse qui planait, c'est d'être transféré au camp de Sisteron. Cette hantise planait, parce qu'il paraît que le camp de Sisteron était un camp, évidemment, ce n'était pas non plus un camp d'extermination, mais c'était un camp beaucoup plus dur que le camp. Alors, il y avait Sisteron, et puis il y avait Gurs, le camp de Gurs. Mais le camp de Gurs, quand même, il était sensiblement le même que le nôtre, au point de vue discipline intérieure. Il paraît que le camp de Sisteron, par contre, était très, 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 très dur. Alors avec une frousse, on disait, et tous les 4-5 jours, il y avait des gars qui étaient transférés, on les appelait, on leur disait, vous partez à Sisteron. Alors, Pourquoi on, alors, je ne me demande pas pourquoi. Cela appartient à Sisteron et pas nous et pas d'autres. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, je n'ai jamais su. Bon, alors nous étions là et puis il y avait un gendarme qui était détenu. Oui, il y avait un gendarme qui était passé au maquis et qui avait été arrêté. Il avait 27 ans, il était le chef de baraque. Alors il était en tenue. En tout cas, enfin, sans sa veste. Il avait quand même que le pantalon et puis il portait un pull. Et il était chef de baraque, c'est à lui qu'on s'adressait. Ou quand les miliciens avaient quelque chose à demander, c'est à lui que les renseignements étaient demandés. Et alors, d'où tenait-il ces renseignements? Comment les recevait-il? Je ne sais pas. C'est difficile à savoir. C'est lui qui a commencé à nous parler, si vous voulez, des maquis, des armées de résistance, l'armée dans le Vercors, ainsi de suite. Des choses qui... On était effarés. Comment en pleine guerre, comment pouvait-il y avoir des gens qui vivaient en groupe et en armée même, et qui combattaient les Allemands? Ça, c'était quelque chose d'effarant. Nous, débarquant de notre côté, tout à fait de l'Ouest, où c'était pratiquement impossible, on ignorait tout ça. Alors, c'est à partir de là qu'on a peut-être commencé à dire si on peut sortir de là, eh bien il n'est plus question de rejoindre l'Espagne, mais on ira essayer de rejoindre ces armées qui se forment à gauche et à droite. Bon, et puis rien de très spécial au point de vue vie, sinon que, voilà, je vais vous donner quelques petits exemples. Il y avait d'abord Robert Monge qui chantait très bien, il avait la voix de Tino Rossi. Tout au moins, vous le pensez, était-ce vrai? Je ne sais pas. Mais là, il y avait quand même une infirmière qui venait, et alors elle adorait Tino Rossi, et elle le faisait chanter. Il chantait très bien, on l'écoutait, on passait des journées, enfin des soirées entières à l'écouter. Cette infirmière venait, et quand il avait chanté deux ou trois chansons, elle lui donnait une cigarette ou deux cigarettes, et on arrivait à être non pas bien, mais enfin un peu favorisé. Et puis on ramassait les mégots des droits communs, si on arrivait à rouler n'importe comment, du papier journal, pas de papier journal, mais enfin du bout de papier, n'importe quoi, on fumait n'importe quoi. Donc voilà une anecdote. Autre anecdote, un jour on nous a appelé et il a fallu passer à l'anthropométrie. Alors là, c'est affreux, hein, longueur du petit doigt, longueur de l'avant-bras, photographie de face, de profil, hauteur des oreilles, bon, c'est ridicule, quoi. Et bien, il y avait la commission allemande qui passait environ une fois par mois, et en fonction de quels critères, je ne sais pas, mais ils pompaient 4, 5, 10 gars et qui étaient destinés à partir en Allemagne. Alors, ce qui est effarant, si vous voulez, ce qui est pénible comme vie, c'est de dire, nous sommes là, mais qu'allons-nous devenir? Bon, doit-on partir à Sisteron? Partirons-nous en Allemagne? Allons-nous partir en URSS? Va-t-on rester là et combien de temps? Ou allons-nous être libérés? Oui, c'était autant de questions, autant de réponses inconnues. C'était le vague, et personne à qui s'adresser, on pouvait voir personne. Alors, bon... on était là, puis on attendait les chats. Des fois, il y avait un milicien qui rentrait et qui appelait 4, 5, 6, 7 noms, et puis il dit alors, embarquez, convoi pour l'Allemagne, ou alors pour Sisteron, ou pour Gurs. Voilà. Alors, c'est vraiment très démoralisant. Voilà. Alors, pour. Autre anecdote, pour le 14 juillet quand même, parce que nous étions en République et tenus par des miliciens français, le 14 juillet a été marqué. Le 14 juillet a été marqué, c'est-à-dire que ce jour-là, à midi, nous n'avons pas eu de courgettes. Nous n'avons pas eu de courgettes, nous avons eu des haricots secs. Des haricots secs, enfin, tout au moins ce qu'il en restait, parce que pour ma part, dans l'espèce de gamelle en ferraille que j'avais, j'ai trouvé, et je les ai comptés, 54 pots d'haricots qui nageaient dans un jus relativement épais quand même, Enfin, il y avait 54 pots d'haricots, mais je n'ai pas trouvé un seul haricot entier. D'ailleurs, personne. Il n'y a pas que moi. Hein. Toute la table, là, je ne sais pas les autres tables. Enfin, vous voyez, c'était quand même différent ce jour-là. Hein. On avait fêté le 14 juillet. Et alors, il y avait toujours un grand panneau en haut qui variait, mais je ne me souviens plus. Enfin, oui, alors ce panneau, c'est un panneau qui était pendu dans la salle du réfectoire, et il y avait différents, voilà, c'est-à-dire qu'il s'était marqué, je me souviens de celui-là en particulier, il y avait marqué « Le repas est offert par le Secours Populaire ». Bon, c'est celui qu'on voyait le plus souvent. Voilà, il y avait des fois, ce repas est offert par la commune de Longage ou de Noé, ou par l'association de ceci, ou par l'association de cela. Mais en fait, le plus souvent, c'était le Secours Populaire. Et alors là, je vais vous demander de ne pas rire et de ne pas le prendre au tragique. C'est quelque chose d'abominable, et pourtant, ce n'est qu'une rigolade. Quand nous étions dans la cour, il était fréquent de voir, enfin fréquent, une fois ou deux fois par semaine, dans le camp juif qui était relativement proche, de voir que quelqu'un était embarqué sur une ambulance, pas sur une ambulance, sur une civière. En principe, c'était un mort. Vous voyez, je suppose qu'il devait embarquer beaucoup plus que nous. Bon, alors donc, on voyait quelqu'un qui était embarqué et il disparaissait. C'était donc un mort qui partait. Eh bien, alors là, je vous le jure. Oh là, mais vous n'aimez pas que je jure. Je vous assure. Alors, chaque fois qu'on disait, tiens, ça y est, il y a un juif qui est mort. À midi, le lendemain, nous avions du pâté. Alors n'allez pas conclure, ce n'est pas vrai. On ne nous a jamais fait manger du juif, ce n'est pas vrai. Enfin, de chair humaine. Coïncidence voulue, peut-être. Ou coïncidence tout court, possible. Ce pâté était immangeable. On avait une tranche d'une espèce de matière grise avec des grands poils blancs qui dépassaient de ça, de cette masse, et on pouvait la tordre un petit peu comme comme du caoutchouc. Hein, on pouvait la prendre. La tordre dans ses mains comme ça, rien ne se cassait, vous voyez, ça ne se coupait même pas. Qu'est-ce que c'était, je ne sais pas. Et évidemment, ça avait circulé, on disait, c'est du juif. À cette époque-là, on y a presque cru. On y a presque cru tous. Et malgré la faim qui nous tenaillait le ventre, personne ne mangeait ce pâté. Personne. On pouvait nous le donner, il y avait la courgette et le pâté. Alors, la courgette, elle était mangée, mais le pâté, il restait. Il restait systématiquement. On disait, c'est le pâté des Juifs. Et on y mangeait, on n'en mangeait pas. Que dire encore? Eh bien, chacun sentait ses forces un petit peu diminuer chaque jour. La diarrhée était arrivée, c'était même presque la dysenterie. Une faim constante. Et puis, ça a duré ainsi jusque dans le début octobre. Je me souviens plus la date exacte. Je crois que c'était vers le 8 ou le 10 octobre. Un jour, les miliciens sont rentrés et ils ont appelé quatre noms. Ces quatre noms, il s'agissait de Sébastien, de Monge, de Scholz et de moi. Et on nous a emmenés sans rien nous dire. On est arrivé à la baraque de commandement. On nous a donné des papiers qui étaient tout prêts, des cartes d'identité. Puis on nous a dit, vous êtes libre, foutez le camp. Voilà. Mais Villadari, qui avait 20 ans, il est resté. Évidemment, imaginez quand même, malgré cela, on est peut-être un peu égoïste, la joie que nous pouvions avoir de se retrouver devant la porte, mais sans plus personne pour nous garder. Et libre, libre. Voilà, il y avait la route devant nous, on pouvait partir. Alors nous sommes partis, et c'est assez curieux parce que quand on a vécu dans des conditions pareilles, on se méfie de tout après. Alors, je me souviens, nous sommes passés près d'une ferme et on n'osait pas s'approcher. D'ailleurs, je vois les autres, je les revois encore. Nous étions repoussants, repoussants. Nous n'étions pas changés depuis que nous étions partis. C'était affreux, sale, minable, crasseux. Et nous sommes allés sur le quai de gare. C'est-à-dire qu'il y en a eu un qui a bien que lourd, c'est Sébastien qui est allé quand même chez un boulanger en disant « Nous sommes libérés du camp, mais on crève de faim. On n'a rien, ni argent, ni ticket, ni rien du tout. Pouvez-vous nous donner un morceau de pain ?» Et le boulanger nous avait donné une boule de pain, une boule énorme. C'est grand, ce qu'on appelle des tourtes. Je ne sais pas, ça doit faire 3 kilos, vous voyez. Facile, oh oui, facile, mais une pain très, 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 très serré, vous voyez. Et on n'avait pas de couteau, nous n'avions rien. On est allé sur le quai de gare et on a rompu ça, on mordait là-dedans. C'était quelque chose d'après. Si on voyait quelque chose comme ça maintenant, je ne sais pas comment on peut s'imaginer, ce qu'on pourrait s'imaginer voyant quelqu'un mordre comme ça. Nous étions décharnés. À toute fin utile, je peux vous signaler que j'avais perdu 13 kilos. 13 kilos en 3 mois. Je ne sais pas mes copains ce qu'ils en étaient. Enfin, on flottait dans les hardes qui nous étaient sur la peau. Le train est arrivé et on n'a rien demandé à personne. On est monté dans le train et en direction de Bordeaux. Et nous sommes partis à Toulouse. On n'avait pas eu de contrôle. Encore, on est descendu à Toulouse. Il fallait changer de train à Toulouse. On est descendu à Toulouse, on a erré un petit peu dans le machin, puis dans la nuit, il y avait un train qui montait sur Bordeaux. Alors on a pris ce train, on s'est couché, on s'est endormi. Et c'est en arrivant près de Bordeaux, nous en étions à peu près une centaine de kilomètres, à peu près. Là, il y a un contrôleur qui est rentré et qui nous a demandé nos billets. Évidemment, nous n'avions ni billets, ni argent, ni rien du tout. Alors on lui a simplement montré les feuilles de libération que nous avions du camp. Et pour la forme, il nous a un peu engueulé, enfin un peu sermonné. Et puis il est parti en disant qu'il verrait. Puis on attend toujours, quoi. Nous sommes arrivés à Bordeaux. Puis on est sorti, personne ne nous a rien demandé. Et Et nous avons traversé tout Bordeaux à pied parce que nous n'avions pas d'argent pour prendre le tram. Et puis chacun est rentré chez soi, dans l'état où nous étions. Je vous parlerai plus tard de mon arrivée. Je viens de réécouter cet enregistrement quelques années plus tard. Et il est assez curieux que je retrouve des imperfections, non pas des anomalies, des imperfections. En effet, au début, je parle de André Verdier, puis je l'appelle plus tard Maurice. Eh bien non, effectivement, il s'appelait Maurice Verdier, et non pas André. Plus loin, je parle de René Bazerque et je l'appelle Roger Bazerque. Eh bien, c'est Roger et non pas René. Je comptais donner une suite à ce que je viens de vous relater. Pour qui l'ai-je relaté d'ailleurs? Peut-être pour moi-même, pour mes enfants peut-être, mais... De toute façon, on aime s'écouter. La suite, je crois qu'elle manque d'intérêt. Elle manque d'intérêt, ça tomberait dans le banal, ça serait beaucoup moins amusant, parce que, en définitive, c'est pas triste, n'est-ce pas? Alors la suite, une suite très brève. Je fus le seul, coïncidence sans doute, à retrouver cette fameuse armée que le chef de baraque, gendarme du camp de Noé, nous avait parlé. Je l'ai retrouvé, ne disons pas par hasard, mais j'y suis rentré par hasard. C'est en Dordogne, vous voyez, nous n'étions pas tellement loin et j'ignorais qu'il existait une armée de résistance si près de chez moi. Quelques mois plus tard, je rentrais donc dans cette résistance. C'était un groupement FTPF. Curiosité, en 1982, les FTPF portaient la Croix de Lorraine. C'est plus tard que... Il y eut divergence de vue, mais bien plus tard. Que devinrent mes camarades? Robert Monge, rentré à la Libération dans l'armée, devait succomber quelque temps après une longue maladie. Villadari fut rapatrié d'Allemagne, où il n'eut pas une vie tellement désagréable, puisque Henri conduisait des tramways à Hambourg, je crois. Roger Scholz, plus jamais revu. Gilbert Sébastien, à la Libération, devait s'engager dans la Légion étrangère. Il fit un séjour en Indochine. Et puis, marié, et puis disparu de ma vie aussi. Plusieurs correspondances que j'eus avec lui ne me répondit jamais. Et puis, je suis rentré dans la résistance et puis ensuite je suis passé à l'armée régulière et j'ai fait un séjour très long dans l'armée, passant par l'Indochine, l'Afrique noire, l'Algérie, et puis on arrive à mon âge et je suis un vieux. Au revoir.